À l'hôtel de police de Nantes, il est 17h. Laurent prend son service. À 51 ans, ce brigadier est l'un des plus expérimentés du GSP, le groupe de sécurité et de proximité.
J'ai 28 ans. 28 ans, bientôt 29, que je suis dans la police.
Et après autant d'années de service, Laurent sait qu'il ne va pas chômer ce soir.
BSTC 12 de GSP 10, vous avez besoin d'une assistance ?
Nous sommes jeudi, et à Nantes, comme dans presque toutes les villes étudiantes de France, les jeunes font la fête.
Nous sommes fiers d'être nantais, tous ensemble on va chanter, tous ensemble on va chanter.
Dans les rues de la ville, les bars et sur les quais de la Loire, avec la consommation d'alcool, les esprits s'échauffent vite. Dans ce cas-là, Laurent redoute les excès de violence et les bagarres.
J'ai expédié sur le temps de vue, on a aussi eu une bagarre entre 4-5 personnes avec des couteaux.
Une agression à l'arme blanche. Il pourrait y avoir des blessés. Surtout, les agresseurs pourraient encore se trouver sur place. Alors pour Laurent et ses collègues, Morgan et Mitch, c'est une situation risquée.
En fait, le problème, c'est qu'on n'en sait pas plus. Donc forcément, on ne sait pas trop... Sur quoi on va, faites attention.
L'agression s'est déroulée à la sortie de cette boîte de nuit. Les victimes se sont rassemblées sur le trottoir quelques mètres plus loin.
C'est ça ?
Non, ça
se fait
rien,
mec. Tiens, elle
est là, t'as il y a un témoin là ou pas ?
Bah, elle a plein, je peux casser la gueule.
Les agresseurs seraient au nombre de 3. Heureusement, pas de blessures graves. Même si ce jeune homme a le bras cassé et celui-ci le nez tailladé, sûrement avec la lame d'un couteau. Une arme dont les policiers ne trouvent pas trace. Ayant fui, les agresseurs ont dû le garder sur eux et sont toujours potentiellement dangereux. Laurent et son collègue décident de partir à leur recherche.
On nous a désigné 3 individus en fuite qui auraient dressé gratuitement les personnes.
Ça va, ça va.
Arrête-toi là, 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 il y a quelqu'un là.
Vas-y, arrête-toi là.
J'ai rien
fait. Non, c'est bon.
Morgan et Mitch ont rapidement maîtrisé l'un des suspects. Mais pas de traces des autres.
T'as rien sur toi ?
Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune homme prétend avoir agi seul.
Allez, on va s'asseoir. Il vient d'où le sang que t'as sur tes mains, là ? Et sur ton pantalon ?
Je vais vous expliquer, je suis cuisinier. Franchement, monsieur, je vais tout vous expliquer de A à Z.
Ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé, alors ?
Je viens de me battre.
Ouais ? Avec qui ?
On vient de me prendre pour un idiot.
Ouais.
Et justement, je croyais que c'était les amis à lui qui arrivaient.
D'accord.
Franchement, je suis content que c'est vous.
Ouais.
Bon, c'est vrai, mais je suis
bon, bah, ça va bien se passer alors.
Pour échapper à la police, l'homme s'était caché. Il en a peut-être profité pour se débarrasser du couteau qui aurait servi à l'agression.
Il était caché sous cette bagnole à la base.
Aucune arme. Le suspect l'a jeté ailleurs. En revanche, Morgan trouve une bouteille d'alcool.
Il y a une bouteille à côté.
Cela ressemble à une rixe entre jeunes gens alcoolisés qui auraient dégénéré. Avant de conduire le suspect au commissariat, le policier décide de le confronter à ses victimes.
T'as eu ou quoi, jeune homme ?
Oui, oui.
Ok, ça meurt.
Pour pouvoir l'interroger, les policiers doivent savoir si le jeune homme est suffisamment sobre. Alors, dès son arrivée au commissariat, Laurent le fait souffler dans cet éthylomètre. 1,10 mg par litre d'air expiré. Un chiffre qu'il faut multiplier par 2 pour obtenir le taux d'alcool dans le sang.
Ça fait 2,20.
Ah, quand même.
Ouais, ça fait 2,20.
Mais il tient la route, en plus, il marche normalement. Et...
Bah, il est costaud, monsieur.
2,20 g, c'est presque 9 fois la dose d'alcool autorisée. Le suspect ne sera pas interrogé ce soir. Sa nuit, il la finira en cellule de dégrisement. En attendant, pour cette agression, il risque jusqu'à 6 mois de prison.
Ça arrive souvent, ça, les soirées baston comme ça, dans la rue ?
Tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis soirs.
C'est dû souvent à l'alcool ?
C'est toujours lié à l'alcool.
D'accord.
C'est souvent... Bah là, il est 1h, donc c'est un peu tôt. Mais d'habitude, c'est souvent en fin de soirée, 4-5 heures du matin.
Résultat, depuis plusieurs mois à Nantes, tous les délits liés à l'alcool sont en nette progression. Un centre-ville rénové qui laisse la part belle aux transports en commun et aux cyclistes. Une population jeune et dynamique. Nantes a tout d'une ville où il fait bon vivre. Pourtant, malgré ce calme apparent, elle dispose de l'un des plus gros hôtels de police de France. Et ce n'est pas pour rien. Le nombre d'incivilités augmente dangereusement, ce qui empoisonne notamment la vie des contrôleurs du tramway. Une brigade de surveillance des transports a même été spécialement créée et Hugo, son responsable, a souvent fort affaire.
Arrête de parler parce que...
Le problème, c'est que ce genre de comportement dérape vers la petite délinquance. Et la nouveauté, c'est que les auteurs sont particulièrement jeunes et ils n'ont peur de rien. De quoi inquiéter le brigadier Laurent.
Quel âge ?
Mais j'ai 12 ans.
Quel âge ?
12 ans.
C'est pas possible.
Bravo, Tom.
Refus d'obtempérer, délit de fuite. Aujourd'hui, à Nantes, les délinquants jouent au chat et à la souris avec la police. Un jeu dangereux. Particulièrement pour les conducteurs de deux roues, capables de prendre tous les risques pour échapper aux patrouilles de la BAC, comme celle que dirige Céline. Mais ici aussi, le fléau qui mobilise prioritairement les policiers, c'est la drogue. Avec Michael de la brigade des stupes, nous avons suivi le démantèlement d'un trafic d'héroïne. Drogue dure, mais aussi cannabis et ecstasy. À Nantes, même la police de la route traque les dealers. Immersion dans le quotidien mouvementé des policiers nantais. Ce matin, le major Hugo, patron de la BSTC, la brigade de surveillance des transports en commun, a rendez-vous avec les contrôleurs du tramway.
Bonjour.
Avec ces hommes, il est de plus en plus souvent obligé de les accompagner dans leur mission.
On va vers où ?
Comme vous voulez.
On vous laisse. Ok, moutonnerie. Ok, c'est bon. On est parti. Eux, ils effectuent leur contrôle. Et nous, on est là en deuxième rideau au cas où ils aient des soucis. On va se dépêcher de traverser avant que le tram arrive. On y va, les gars ? On y va. Direction moutonnerie.
Hugo et ses hommes rassurent les contrôleurs. La présence des policiers évite surtout que le comportement des passagers récalcitrants au contrôle ne dégénère. Pour une carte de transport non validée, une impolitesse, un refus de contrôle, les policiers de Nantes savent que ça peut vite mal tourner. Et ce matin, ils vont être servis. Cette fois, ce sont trois jeunes filles qui descendent un peu trop précipitamment du wagon, juste devant Bertrand, le contrôleur.
Le transport s'est fait avant de descendre. Vous, dans le mauvais champ, on peut pas arrêter le transport. C'est pas grave.
Pour Bertrand, ces situations sont de plus en plus difficiles à accepter. La jeune fille n'a pas payé son titre de transport, 1,60€. Et vu son agressivité, il est difficile de la verbaliser.
Non, vous avez une pièce d'identité dans votre sac, s'il vous plaît.
Mais calme-toi.
Oh, madame, vous explique.
Courant de la mec, parle bien, la vie de ma mère, j'ai quand même...
La situation s'envenime, et Hugo est obligé d'intervenir.
Stop,
mais pourquoi vous êtes agressif déjà?
Pourquoi vous êtes agressif?
Arrêtez de crier, doucement. Arrêtez de crier. Mais il a cru qu'il était qui, c'est bon, il a écrit police, ils sont.
Vas-y, les gens comme ça, voilà, ils passent les couilles.
Vous avez vu comment.
La jeune fille continue de s'énerver et cette fois s'attaque au contrôleur.
S'il vous plaît.
Jusqu'au moment où elle s'en prend à lui physiquement.
Parce que avant que je descende, arrêtez de parler. J'ai rien fait.
La situation devient totalement incontrôlable. Et quand elle tente de récupérer sa pièce d'identité dans les mains du contrôleur, Hugo s'interpose une nouvelle fois. Et c'est le policier qui devient l'objet de sa colère.
Lâche-moi ! Tu m'as mis une contravention, tu te sens comment ?
Moi, je vais être contravention.
Tu te sens comment ?
Très bien.
Tu te sens comment ?
Très bien.
Espèce de con.
Oh, là, ça me croche.
C'en est trop, il décide de l'embarquer au poste.
Voilà, vous avez dit ce que vous vouliez ? Voilà, vous vouliez un escandre, vous avez l'escandre.
Voilà, le cercle habituel.
Et on va déposer plainte.
Le cercle habituel.
Et voilà, c'est énorme, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, c'est énorme.
Elle a pas payé son ticket.
Voilà. Pour une carte non valide.
Les contrôleurs semblent fatalistes. Ces dérapages sont devenus leur lot quotidien.
La demoiselle, apparemment, elle a des petits soucis, mais bon, il y a le respect. Maintenant, il n'y a plus de respect depuis personne. Donc, il y a le problème.
On y va, c'est bon, on est prêt.
La jeune fille est conduite au commissariat. Le temps de se calmer.
Allez, on emmène.
Elle paiera finalement une amende de 51,50€. Quant au contrôleur, ils ont repris le tram. Leur service n'a été émaillé d'aucun autre incident ce jour-là. Ce matin, à l'hôtel de police flambant neuf de Nantes, c'est un autre genre de fléau qui préoccupe le commissaire divisionnaire Laurent.
Bon alors, on est tous sur l'affaire de Stup.
Écoute, ça a l'air d'être bon, hein, parce que le produit est arrivé.
Le produit est arrivé ?
Ouais, ouais.
Ah bah excellent, excellent.
Oui, bonjour.
Mobilisée depuis 3 mois, la brigade des Stup est sur le point de toucher au but. Elle va démanteler un important trafic d'héroïne, tenu par un couple de revendeurs. Michael, le chef d'enquête, les a mis sur écoute.
Oui, ma poulette, ben, je suis là, mais je te vois pas.
Ah bon, non, mais dans la rue, mais au bout de la rue, dans la voiture.
Ok, à tout de suite.
Ces enregistrements, ce sont ceux des dizaines de clients qui se fournissent chez le couple.
Ok, à tout à l'heure, à la salle.
On espère avoir du produit. Oui, on cherche tous le produit, hein, dans les affaires de Stup. Mais oui, bien sûr.
En matière de Stup, il y a un gros travail de terrain, il y a un gros travail de surveillance technique également, donc les écoutes en font partie. Et donc ce sont des affaires où il faut être à la fois, c'est à la fois très prenant et c'est en même temps donc très prenant et il faut être très réactif. Donc il faut suivre les écoutes, j'allais dire, heure par heure, voire plus dans certains cas, quand il faut faire du direct. Mais en ce moment, c'est ce qu'ils faisaient parce qu'ils sentaient l'arrivée imminente des stupéfiants dans le cadre de cette affaire. Bon, ben on se tient au courant ?
Ouais.
Suite à ces dernières écoutes, les hommes des Stup ont décidé d'intervenir rapidement. Ce matin, le capitaine Michael a mobilisé la brigade. Il se prépare à un grand coup de filet.
Le bélier, Franck. On prend le pied de biche, nous.
Son objectif est d'interpeller en même temps 3 éléments importants du réseau. Les dealers, leur nourrice qui entrepose la drogue, et l'un des plus gros clients. Il est 5h30 du matin, Michael veut les cueillir au saut du lit.
On va aller voir le mécanisme d'ouverture de la porte. Tous les effectifs vont se mettre en place. On va se déployer sur les différents points. Et puis on va interpeller.
Michael va s'occuper de l'interpellation la plus importante, celle du couple de vendeurs.
Ouais, on est parti en éclaireur donc, pour voir l'ouverture de la porte.
Les policiers n'ont pas pu repérer les lieux avant. Alors ils vont devoir être particulièrement efficaces s'ils ne veulent pas alerter les suspects.
On va essayer de voir déjà discrètement à deux comment se faire l'ouverture de la porte côté rue, de la porte de l'immeuble.
C'est quelque chose qu'on vérifie habituellement avant, tu vois, mais non.
Et là, ils sont tellement méfiants, aux aguets, qu'on ne peut pas trop le faire avant. Je te les pose.
Le problème, c'est que le quartier où vivent les dealers est fait de petites maisons de ville. Alignées les unes contre les autres, elles disposent de fenêtres d'où il est facile de surveiller la rue. Compliqué de rester discret dans ces conditions. Alors pendant qu'il va se garer un peu plus loin, Michael laisse son collègue entrer le premier dans le domicile.
Ça va tout.
C'est pareil, celui derrière.
Putain.
Hélas, ce que redoutait le capitaine est arrivé. L'un des suspects a pris la fuite. Mais à l'intérieur, Michael trouve la compagne du dealer. C'est aussi sa complice. Vu la situation, elle comprend immédiatement son intérêt à coopérer.
Là, il ressort par l'allée de la petite dessus côté.
Là, c'est fermé, par contre.
Mais là, il peut. Je...
Ah là, il peut.
Et il ressort dans la petite. Il y avait quelqu'un devant là, dans la petite allée.
Il y avait un peu de monde partout, mais après il a pu se refiler, hein, ça sert à rien. Hein. Le temps que tu vois, parce que là, ça arrive partout.
Voilà. Là, c'est. Sinon, après, non. Là.
Voilà. Est-ce qu'on peut le retrouver après? Il va se cacher où?
J'en sais rien. Mais...
Ouais, tu sais quand t'as. Quand t'as envie de te barrer, tu te trouves de l'énergie. Le problème, c'est que là, il s'est barré après dans la rue. À mon avis, il nous a pas attendu. Après, c'était le choix de la cam. Oui. Donc, voilà. Il a fait le choix de rentrer dans le domicile et puis de récupérer la cam. Lui, on le récupérera toujours. La cam, une fois dans les toilettes, c'est trop tard.
Chez les dealers, la perquisition a déjà commencé. Et les hommes des Stup n'ont pas mis longtemps à mettre la main sur les preuves du trafic. Une liste des sommes versées par les clients, des centaines d'euros en liquide, et enfin, la drogue soigneusement emballée. 1 kilo d'héroïne au bas mot. Mais Michael ne renonce pas. il a peut-être une ultime chance de rattraper le fuyard.
Non, on connaît un de leurs clients qui habite à 200 mètres d'ici. Peut-être qu'il s'est réfugié là-bas.
Michael le sait, sans voiture et sans argent, le dealer n'a pas pu aller bien loin. Pour garder l'effet de surprise, les policiers décident d'entrer dans le domicile sans s'annoncer.
Police, police,
ne bouge pas.
J'ai rien sur moi.
Visiblement, les hommes des stupes n'étaient pas attendus.
J'ai juste envie de pleurer, là.
S'ils ont bien trouvé le toxicomane en bonne compagnie, en revanche, aucune trace du dealer sur les lieux. Le client a tout juste le temps de dire au revoir avant d'être conduit au commissariat.
J'ai pas trop envie, là, tu vois. J'ai envie de casser les nerfs.
Ce client régulier du couple de dealers détient sûrement des informations.
Oui.
Je vais aller bosser rapidement, tu sais, l'idée, tu peux avoir une idée. Ça nous aide, vraiment, on te fera la recherche.
Pour Michael, il va falloir maintenant faire le bilan de la perquisition et des autres interpellations qui ont eu lieu ce matin. Il a de quoi être satisfait. Pourtant, son affaire est encore loin d'être résolue. À Nantes, la drogue circule dans de nombreux quartiers. S'ils ne veulent pas que le trafic explose, les policiers doivent être présents sur le terrain.
Voie 44 de BGR, sortie de BSTC 12, trois fonctionnaires.
Toutes les unités sont mobilisées. Délaissant le tramway, cet après-midi, Hugo, le patron de la BSTC, a décidé de patrouiller dans une cité sensible de la ville.
Là, on va aller dans une cité qui est connue bon, pour trafic de stupes, hein, comme toutes les cités, vol de moto, vol de véhicules. Il y a des auteurs de cambriolage aussi. Il y a eu quelques différends il n'y a pas longtemps avec des coups de feu échangés avec une autre cité.
Les policiers ont beau venir ici presque tous les jours, ils ne sont jamais les bienvenus.
Le but, nous, c'est de gagner le terrain et puis de leur montrer qu'on est présent et que leur mode de fonctionnement ne correspond pas à la majorité des gens. Et surtout que les gens, ils en ont marre d'être invectivés, insultés, malmenés par des jeunes qui sont en minorité, hein, mais qui font régner leur loi dans les quartiers.
Comme dans beaucoup d'autres villes françaises, les dealers sont prêts à tout pour protéger leur territoire. Dans ce quartier, à seulement quelques minutes du centre-ville, Hugo et ses hommes sont accueillis avec une franche hostilité.
Ils sont là en point de deal, là. Ils caillassent des étages.
Regarde, ça va caillasser.
Ouais, ça va balancer.
Ça balance.
Un petit groupe s'est avancé pour ajuster son tir. Si la patrouille veut éviter la casse, elle doit faire marche arrière.
Avance pas. Vas-y, avance. Il lance quoi ?
Mais trop tard. L'un des projectiles a atteint la portière de plein fouet. Heureusement, sans dégâts apparents. Et les jeunes ne vont pas s'arrêter là.
Attends, regarde bien, regarde. Fais gaffe. Loupé. Ouais, 44, Samuel de Champlain, les individus sont hostiles à notre présence. Hein. Ils ont ramassé énormément de projectiles, hein. Des pavés, des pierres, des mottes de terre, des bâtons, un peu de tout, et même des rétroviseurs qui lancent en notre direction. Donc, à tous les effectifs qui vont intervenir cette nuit, soyez vigilants, reçu ?
Après avoir averti ses collègues, Hugo décide de changer de quartier. Pour montrer qu'il représente l'ordre, les policiers doivent régulièrement marquer leur présence. Ce simple coup de klaxon d'un conducteur de deux roues est la provocation de trop. Le major Hugo décide de le contrôler. Le temps de faire demi-tour, une autre patrouille est déjà là.
Allez, sécurisez le truc, les gars. Fais circuler, la voiture peut passer là, fais-la circuler.
Ce genre de situation peut très vite dégénérer. Déjà, de petits groupes ont repéré Hugo et ses collègues.
Attention là-bas.
Et semble les défier.
Hey les gars, faites gaffe, ça arrive. On fait vite. Hein, on fait vite. Attention, ça arrive. Ça caillasse. Attention, hein. Attention, on essaie de cibler s'il y en a un qui caillasse.
Hugo sécurise le contrôle de ses collègues en s'assurant que les jeunes restent à une distance raisonnable.
Ils vont pas venir au contact, les gars. Est-ce que c'est fini ?
C'est bon pour moi.
C'est bon ? Est-ce qu'on a les coordonnées, monsieur ?
C'est bon.
On a tout. T'as noté l'heure, l'endroit. Changez d'attitude, monsieur. Ça se passera bien. Ben non, monsieur, on fait notre boulot, on ne demande pas à être klaxonné. Est-ce que nous, on est passé ? Est-ce qu'on vous a klaxonné, monsieur ? Hein ? Et par contre, prenez une pièce d'identité, la prochaine fois, sinon, ce sera 4 heures chez nous. D'accord, monsieur ?
pour un simple contrôle, ça prend ses proportions. Là.
Voilà, voilà. Alors, donc il faut un rapport de force correct. Et comme ça, on inverse la tendance. Ils sont moins nombreux que nous ou moins puissants. Voilà, ça les calme. On remonte tranquille, les gars.
Et pour quitter les lieux en toute sécurité, Hugo profite de l'arrivée du tramway.
Retour, avance, avance. Avance, hors du champ de tir des mecs. Allez, on avance.
Une protection idéale contre d'éventuels projectiles.
On monte, c'est bon ? Allez, c'est parti.
Le problème, c'est que les interventions policières provoquent de plus en plus souvent ce genre de réaction violente. Et chez les proches d'Hugo et de ses collègues, le sentiment d'inquiétude grandit.
Dès qu'on a un peu de retard, les conjoints ils s'inquiètent, les enfants pareil. Donc ils se posent toujours la question de savoir si on n'a pas été blessé en intervention. Et donc le mieux c'est d'essayer de rentrer entier, pas trop tard, profiter de notre famille, c'est ce qui est le plus important.
La mise en garde du major Hugo a été transmise à toutes les unités de nuit. Alors ce soir-là, Laurent, le brigadier du groupe de sécurité et de proximité, est particulièrement vigilant. Soudain, un appel tombe à la radio.
Il y a deux jeunes filles qui sont en train de mettre le feu, et puis j'ai de protection. Alors, ça crame, le plastique tombe par terre et ça met feu aux feuilles qu'il y a par terre. Ça commence à prendre feu.
Ces filets sont ceux d'un terrain de sport à 300 mètres de là. Le plus surprenant, c'est que cet acte de vandalisme serait le fait de deux adolescentes. Laurent ne le sait pas encore, mais elles sont particulièrement jeunes. Pourtant, dès qu'elles aperçoivent les policiers, elles prennent la fuite, chacune de son côté, comme des délinquantes aguerries. Et alors que le policier en prend une en chasse, l'autre réussit à s'échapper.
Arrête-toi !
Laurent a besoin de plusieurs minutes de course-poursuite avant de l'intercepter.
Attends.
Non sans l'aide de son collègue venu en renfort. La jeune fille semble plus s'inquiéter pour son téléphone que pour les actes commis.
Mets ton arme, musique là. S'il vous plaît, là. J'ai rien fait.
Elle tient tête au policier. Mais malgré son aplomb, Laurent devine qu'elle est particulièrement jeune.
Monsieur.
T'as quel âge ?
Mais j'ai 12 ans.
Quel âge ?
12 ans.
C'est pas possible.
Mais la vie même.
Laurent va ramener l'adolescente devant le filet qu'elle a incendié et qui continue de se consumer. Entre-temps, sa copine a été interpellée par une patrouille de la brigade canine. Elle aussi n'a que 12 ans.
Ça sent le chien, là.
Il y en a de plus en plus. Des filles qui restent en groupe et qui agressent. Et je pense qu'elle en prend le même chemin.
Vu leur âge, ces jeunes filles ne risquent pas grand-chose face à la justice. En revanche, leurs parents seront certainement obligés de rembourser les dégâts si le bailleur social qui gère les immeubles porte plainte. En attendant, c'est au commissariat que les parents devront les récupérer. Pour Laurent, la nuit est loin d'être terminée.
Je vais annoncer, là.
Ouais. 44 de GSP 11 actuellement derrière le clair océan. Clio blanche, immatriculation. Bravo, Tango.
Les hommes de la sécurité publique viennent de prendre en chasse cette voiture blanche. Elle roule bien au-dessus de la vitesse autorisée. Plus de 100 km/h dans une zone limitée à 30. Le conducteur prend tous les risques. Après vérification, le véhicule s'avère volé. Voilà pourquoi l'automobiliste refuse de ralentir. Même à l'approche d'un croisement dangereux.
Fais gaffe, c'est un top.
C'est ça qui est chaud, putain!
Le chauffard en a profité pour distancer ses poursuivants.
Ouais, véhicule perdu.
Un peu plus loin, un rond-point a permis aux fuyards de s'évanouir dans la nature.
Y a pas, hein.
Pour Laurent, ses refus d'obtempérer sont difficiles à gérer.
On met notre vie en jeu, ainsi que celle des usagers de la route. Donc, à un moment donné, on est obligé de ralentir et puis de laisser partir le véhicule, même si le véhicule il est volé, même s'ils ont commis d'autres infractions comme les cambriolages ou autres. Mais...
En un an, ces délits ont augmenté de 20% sur les routes de Nantes, rendant impossible la résolution de certaines affaires. En revanche, ce matin, dans les bureaux des stupes, on affiche sa satisfaction. La perquisition qui s'est déroulée chez le couple de trafiquants d'héroïne a été fructueuse.
Bonjour.
Le commissaire divisionnaire Laurent est venu féliciter ses hommes.
Ils sont bons. C'est vrai, bah, grâce à eux.
C'est une très très belle affaire, la voyade des stupes, là, une très belle affaire dans les quartiers, ce qui alimente. Puis l'héroïne, c'est un produit qui est particulièrement recherché aujourd'hui. Hein. Donc une affaire avec un kilo, bah oui, par les toxicomanes, donc c'est une vraie économie souterraine avec des gros bénéfices pour les trafiquants et une destruction pour les consommateurs. Donc des vrais enjeux de santé publique et de sécurité.
Il faut dire que la saisie est impressionnante. En plus du kilo d'héroïne, équivalent à 40 000 euros à la revente,
1, 2, 3, 4, 5.
Les policiers ont trouvé près d'un demi-kilo de résine de cannabis.
C'est du billet vert.
Et au total, près de 8 000 euros en liquide.
Voilà, parfait.
Le toxicomane qui a été arrêté va être auditionné par Michael, le chef d'enquête. Mais avant de s'expliquer, l'homme a besoin d'un calmant.
Bien sous la langue pour le faire fondre. Merci.
Ce gros consommateur d'héroïne ressent les premiers signes de manque. Pas sûr qu'il puisse répondre longtemps aux questions. Pour commencer, Michael veut évaluer sa consommation de drogue.
Ça paye 20, 40 euros, c'est ça ? Ce qui fait 1200 euros, si je me souviens.
Oui.
1200 euros par mois pour la consommation d'un gramme quotidien. Le toxicomane connaissait très bien son dealer. Pour Michael, il détient donc des informations qui pourraient lui permettre de retrouver le fuyard.
Alors, raconte-nous.
En tant que consommateur, je ne sais rien, si tu as...
Ben si.
Face à son manque de collaboration, Michael et son collègue vont lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à parler.
Tes déclarations, tu nous fais pas plaisir à nous, tu sauves ton cul à toi.
Toi qui es chien de balance, on n'en est plus à ce niveau-là. Là. Utilise-le comme un tremplin pour t'en sortir. Mmh. Parce que là, tu rentres dans un circuit judiciaire où la justice va aussi t'aider à t'en sortir. Montre ta bonne volonté.
Après,
et montrer sa bonne volonté, ça commence par l'audition.
Alors l'homme décide de dire tout ce qu'il sait.
Il s'est rentré dans son appartement.
Oui.
C'est lui qui faisait toujours la remise.
Oui.
Comment ça se passait? Oui. Il se faisait patienter où?
C'était toujours lui. Moi, j'étais dans l'entrée. Puis il est arrivé après.
Il m'a laissé rentrer. Il m'a laissé dans l'entrée.
Pour Michael, ces informations sont précieuses. Il ne sait toujours pas où se trouve le dealer, mais il a accumulé des preuves pour le confondre quand il sera arrêté. Le toxicomane, lui, semble épuisé. Sa crise de manque a commencé.
Je le sens. Je sens le mal qui s'approche. Il est sur froid, il est sur chaud. Là, après, on commence un petit peu à avoir mal dans toutes les articulations. Mais vraiment à se taper les membres partout.
C'est bon, ça fait mal.
Ah oui, ah non, mais c'est... Puis après, tu te dis, il va pas vivre.
Si le client parvient à surmonter la privation d'héroïne, la compagne du dealer, en attente d'audition, et quant à elle, très mal en point. Les policiers vont tenter de l'aider.
Le médecin, il est commandé, donc il va bien te revoir.
Elle est aussi héroïnomane. Son état ne lui a pas encore permis d'être entendu.
Il en fait 10 prises par jour, plus que toi.
C'est bien.
C'est bon.
Ouais. Un à chaque fois.
Non.
Demi.
À la tête d'un important trafic, cette femme est la première victime de la drogue qu'elle vend. Malgré son état physique, elle n'a que 40 ans. Et elle va puiser dans ses dernières forces pour se traîner jusqu'à la salle d'audition.
Elle a une consommation très importante d'héroïne. Donc elle a un manque forcément très important. Elle a 10 grammes par jour à peu près. Pour autant, le médecin estime que son état est compatible avec la prolongation de la garde à vue. Hein. Mais elle peut parler, mais physiquement, elle est mal. Quand on voit cet état, effectivement, on ne peut qu'avoir la volonté d'empêcher et d'arrêter ces vendeurs de mort.
La femme a finalement été interrogée une fois la crise passée. Avec son compagnon dealer arrêté quelques jours plus tard, ils ont tous les deux accepté de suivre un programme de désintoxication dans l'attente de leur procès. Pour la brigade des stupes, l'affaire est bouclée et se termine bien. Mais en matière de drogue, comme dans beaucoup d'autres histoires criminelles, les policiers doivent de plus en plus faire face à la violence des délinquants. Et dans le pire des cas, utiliser leurs armes. Comme tous ses collègues, Céline, 37 ans, doit effectuer au moins 6 entraînements par an.
On y va, allez ! Bravo ! Engage !
Mais pour cette responsable d'un groupe de la BAC de Nantes, cet entraînement a une résonance particulière. Quelques semaines plus tôt, Céline a été prise à partie par des malfaiteurs. Pour la première fois en 17 ans de carrière, ce brigadier-chef a dû se servir de son arme de service.
Il y a un individu qui a pris la fuite à pied, je me suis mise derrière. Et après quelques mètres de course à pied, il s'est retourné vers moi, il m'a tiré dessus à deux reprises. Donc j'ai été obligée de faire feu pour riposter à deux reprises. C'était pour sauver ma vie, on va dire. Et ça a permis, mes coups de feu, sans l'atteindre, a permis qu'il cesse de me tirer dessus et qu'il reprenne la fuite à pied en lâchant son arme.
Après quelques minutes, avec l'aide de ses collègues, Céline interpellera le tireur.
Vous le vivez comment maintenant ?
Avec le recul, sans aucun problème, puisque de toute façon, l'affaire était en légitime défense, sans aucun problème, et sans conséquences négatives, ni pour l'auteur des coups de feu, ni pour moi-même, donc je le vis très bien, et s'il faut demain moi servir de mon arme, il n'y aura aucun souci.
Quand la policière repense à cet événement, c'est surtout avec la satisfaction d'avoir permis l'arrestation d'individus menaçants. Mais aujourd'hui à Nantes, les équipes de la BAC doivent faire face à un nouveau danger, les jeunes en scooter. Eux aussi multiplient les délits de fuite et les refus d'obtempérer.
Ils se croient tout permis, ils sont sans casque, ils pensent qu'ils peuvent rien leur arriver. Maintenant, après, c'est notre rôle de ne pas les laisser faire et de ne pas les laisser agir comme ça à toute impunité.
Tout juste parti en patrouille, Céline et ses hommes reçoivent un appel radio.
Reçu dans plus de 35 coups de feu, individu avec un casque noir, correct ?
Ouais, correct.
C'est quoi du coup ?
Là, sur un refus d'obtempérer, un motard qui est parti lorsque les collègues ont voulu contrôler.
Ouais, 44 de BAC 11. Une moutonnerie, un scooter, il est reparti dans les quartiers vers d'Albi. Il est reparti direction l'hôpital Bélier. Hôpital Bélier, on l'a relevé, il est hôpital Bélier.
Les policiers viennent de repérer le fuyard. Il est à quelques dizaines de mètres devant eux.
Tu passes.
Poursuivi par la police, le conducteur prend de plus en plus de risques.
Il va bientôt arriver au niveau de la mosquée. Il va prendre.
Il finit même par percuter un tramway. Le scooter est à terre, mais le conducteur s'enfuit. La course-poursuite s'engage. Se sentant rattrapé, il tente le tout pour le tout. Il cherche à s'enfuir en longeant les rails du TGV. C'est sur le bord de la voie ferrée que les policiers finissent par l'interpeller.
Pourquoi tu t'arrêtes pas ? Réponds-moi ! Pourquoi tu t'arrêtes pas ? Il est volé !
Non, il est honnête.
Pourquoi tu t'arrêtes pas ? T'es débile ou quoi ?
J'ai pas de casque.
Tu es débile ! Tu veux mourir ? Eh bien, tu le risques que t'as pris !
J'ai porté plainte, je m'en étais.
Tu t'arrêtes, ouais, tu t'arrêtes, c'est la police.
Je suis sur lui. Tu peux.
Voilà pourquoi tu t'arrêtes pas. C'est pas dans ta poche.
C'est un gramme, oui.
De quoi ?
Non, de shit.
Menotté, le jeune homme se montre enfin docile.
Là-bas, tu vois ? Moi, je suis que là-bas.
C'est le poulet, c'est bien. Bravo.
L'affaire a mobilisé toutes les patrouilles de police présentes sur le secteur. Même Hugo, de la brigade des transports, est de la partie. Le jeune homme est remis à l'équipe de Céline. Elle va le conduire au commissariat où il sera placé en garde à vue. Le garçon est bien connu des services de police. Il risque un an de prison et 35 000 euros d'amende. Après ce petit coup de main, les hommes d'Hugo reprennent leur patrouille. Cette fois, ils vont être appelés pour un différend familial. Ce sont les seuls à pouvoir intervenir rapidement.
Décision, on n'a plus personne disponible. On va vous envoyer sur un différend apparemment. Au rez-de-chaussée, on aurait un homme qui
est en train de
casser une porte avec des cris de
femmes. Ouais, BSTC 10, on est à proximité d'Alfred Nobel. Un différent familial, apparemment, avec un individu qui essaie de casser une porte.
Donc là.
Pour info, on est sur place.
Le chaussée, là.
Tu restes là ? T'as le taser ?
Ouais, j'ai le taser.
Plus habitué aux guerres de territoire qu'aux affaires de famille, Hugo va aller de surprise en surprise.
Bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Rien.
Y a pas quelqu'un qui casse des portes ici?
Si, c'était moi.
Ah d'accord, c'était pourquoi madame alors? Expliquez-nous.
Je suis prêt d'être avec mes parents.
Ouais d'accord, ils sont où vos parents?
Ils sont là.
Est-ce qu'on peut les voir s'il vous plaît?
Oui.
En réalité, pas de porte cassée, mais une fille et une mère en plein conflit.
Bonjour madame.
Entrez alors.
Non, qu'est-ce qui s'est passé là?
Madame,
calmez-vous. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'embarquer? Embarquez-moi.
Vous avez cassé quelle porte?
Lâche-moi, toi!
Alors que les policiers pensaient que la situation s'était calmée, la colère de la jeune fille explose.
Qu'est-ce qu'elle a votre fille, madame? Qu'est-ce qu'elle a votre fille?
Nous, on est des personnes extérieures.
Voilà, on veut comprendre. On vient, on veut comprendre. Alors expliquez-nous. Je donne la parole à qui? À votre maman et après à vous? On fait comment?
Hugo comprend assez vite que c'est l'épuisement qui est à l'origine de cette tension.
Parce qu'il fait, ramadan.
C'est pour ça qu'elle s'énerve.
Voilà.
D'accord.
Ramadan, n'est pas manger, n'est pas boire, n'est pas
c'est pour ça qu'elle s'énerve.
Non, ne travaille pas pour l'instant. Bon.
De son côté, la jeune femme s'est enfin calmée et elle va reconnaître s'être emportée pour pas grand-chose.
Bon, aujourd'hui, c'est quoi le motif de votre prise?
Le motif, parce que je me suis pris la tête avec elle, parce que...
Regardez, vous avez...
Voilà,
on arrive à discuter, ça sert à rien de vous énerver, d'accord?
La dispute est anecdotique. Hugo va tenter de jouer les intermédiaires entre les deux femmes et leur proposer une solution pour faire la paix.
Bon, vous pouvez manger à partir de quelle heure aujourd'hui?
22h10.
D'accord. Ouais. Bon, vous mangez en tête à tête, hein, puis vous essayez de discuter. Non. Passez une bonne soirée, arrêtez de vous énerver.
Bonne continuation.
Allez, au revoir.
Non, y a pas de soucis, normal.
La proposition semble satisfaire tout le monde. Mais les policiers espèrent que la manière douce sera efficace et qu'ils ne seront pas obligés de revenir dans quelques heures.
On arrive sur une situation où la personne est déjà énervée. Si nous, on n'arrive pas à se maîtriser et qu'on ajoute à son énervement une façon un peu trop virile ou qu'elle va supposer être une agression, ça va monter d'un cran et la personne va avoir du mal à se contenir. Le but, c'est de faire redescendre la pression tranquille et puis de faire comprendre que ça sert à rien de s'énerver, qu'on peut régler les problèmes d'une autre manière. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Parfois pourtant, la discussion est impossible. Dans un autre quartier, on retrouve Céline, qui a été appelée pour un jeune sans casque, conduisant un scooter non immatriculé.
Deux fois, S9 November.
En réalité, l'engin est volé. Déjà connu des services de police, le suspect a été menotté, mais le contrôle s'envenime. Il refuse de suivre les policiers au commissariat.
Tu t'assois.
La scène commence à attirer l'attention. Les policiers ont intérêt à quitter rapidement les lieux. Mais le voleur de scooter présumé ne l'entend pas de cette oreille.
Desserre mes menottes, c'est trop serré. Desserre mes menottes, c'est trop serré.
Et Céline, à peine installée au volant, est insultée.
Pardon? J'ai cru entendre quelque chose, tu es sûr?
J'ai très bien entendu.
Bah vas-y, redis-le, moi je l'ai pas bien entendu. Ouais.
L'agitation du jeune dans la voiture pourrait devenir dangereuse. Et surtout, elle provoque des réactions hostiles chez ses copains de la cité. Alors Céline décide de l'immobiliser grâce à la ceinture de sécurité. Quant au scooter volé, il est chargé sur une dépanneuse.
Au revoir les enfants, bonne journée.
Au bout d'une demi-heure, les policiers peuvent enfin quitter le quartier avec le suspect. Arrivé à l'hôtel de police, le jeune homme s'est un peu calmé. Mais il va devoir rendre des comptes sur son comportement.
Quel effet ça vous fait, ce que le jeune vous a dit dans la voiture?
Rien du tout, j'ai l'habitude. Et puis voilà, ils le disent tous les jours. Et ça passe au-dessus, il n'y a pas de souci. C'est des insultes, mais bon, ils visent plus la fonction que la personne.
Mais cette fois, la policière a décidé de marquer le coup.
Outrage?
Non.
Ah si, bah moi aussi.
Bah oui,
là c'est clair.
Bon, vous avez été interpellé par nos services pour recel de vol de scooter et outrage à la personne dépositaire d'autorité.
Loin de comprendre la gravité des faits, le jeune homme lance une dernière insulte.
Ah, vous avez mis outrage?
Oui.
Vous avez mis outrage?
Pourquoi?
Comme des petites chiennes. Hein.
Après sa garde à vue, le jeune a été laissé libre. Il sera convoqué dans quelques mois au tribunal de Nantes et risque jusqu'à 5 ans de prison pour le scooter volé, plus 6 mois pour l'outrage. le centre-ville de Nantes n'est pas épargné par la petite délinquance. Les voies de tramway sont même devenues un lieu de deal. Alors l'équipe d'Hugo y patrouille régulièrement.
Ouais, c'est assez facile à comprendre, hein. La croisée des tramways, une présence importante de jeunes, et c'est connu pour ça.
Il y a des signes particuliers qui te font réagir sur des individus?
L'attitude. Ils dissimulent le visage, ou ils tournent des talons, ou ils s'enfuient, ils se débarrassent d'un objet. Ouais, voilà, ou ils jettent quelque chose. Donc souvent ils se positionnent là-bas, les dealers. Parce qu'ici c'est un passage.
Il y a pas mal d'échappatoires.
Ouais, moyen de fuite important.
Pour lutter contre ce trafic omniprésent, Hugo et ses policiers contrôlent au hasard les jeunes gens qui traînent dans le secteur.
Bonjour messieurs, dames, vous avez pu identifier s'il vous plaît? Merci. C'est à qui ce joint?
Et il n'y a pas que la drogue qui circule ici.
Non, je la mets dans mon sac.
Ah voilà. Consommation d'alcool, c'est interdit, sur le public. Hop, il y en a arrêté. On intervient ici parce que bon, c'est effectivement un lieu de vente et puis d'incivilité et puis ça crée des nuisances pour les commerçants qui sont en place. Ils en ont marre de voir des gens qui consomment de l'alcool, qui sont en état d'ébriété. En plus, ça urine partout, même dans la fontaine qui est en face. Ça vend du stup, ça crie. On se le soir là-bas.
L'équipe ratisse les environs et Hugo vient de repérer un homme suspect.
Le gazé qui est sur l'armoire téléphonique là-bas. Tout à l'heure qu'on est passé, il est parti et là il est revenu.
C'est le comportement habituel des dealers. La patrouille décide de le contrôler. Il est accompagné d'un ami. Et dans leur sacoche, les policiers trouvent rapidement du cannabis et de l'argent liquide.
Alors, monsieur dit qu'il l'a acheté pour sa consommation personnelle. Ce qui est quand même un peu gênant, c'est que c'est déjà découpé, donc prêt à la vente.
Non.
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept barrettes. Bon, est-ce que vous êtes déjà connu au service de police, monsieur, pour ça?
Non.
Non? Ok. Vous allez faire l'objet d'une procédure.
Les dealers présumés semblent plutôt décontractés. Ils vont pourtant finir au poste. Mais sans flagrant délit de vente, ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Si le trafic a pris une telle ampleur à Nantes, c'est aussi parce que les vendeurs trouvent une vaste clientèle parmi les étudiants et les fêtards, nombreux dans cette ville. Pour tenter d'endiguer le phénomène, la police de la route est elle aussi mobilisée. Il est 4h du matin, le major Jean-Claude prépare un contrôle alcool et stupéfiants à la sortie des plus grosses boîtes de nuit de la ville.
Bonjour à tous. Donc opération contrôle coordonnée alcool stup cette nuit, ce matin, au hangar à Valane. Lorsque vous voyez en apparence des produits stupéfiants à l'intérieur du véhicule, vous n'y touchez pas, vous faites appel à UCL 65 pour pouvoir que le chien intervienne et décoller.
C'est des opérations qui touchent, on va dire, une catégorie de population jeune, hein, celle qui, lorsqu'elle fait la fête, peut souvent être confrontée à des accidents, on le sait, 18-25 ans, un petit peu la, on va dire, la cible, pour parler en langage police.
Cette fois, l'opération est d'envergure. Une trentaine de policiers au total, avec la brigade canine et même plusieurs motards.
Il y a ici un établissement de nuit qui ferme un peu plus tard. Il y a des afters et il y a un peu de monde.
Mais surtout, un kit de dépistage de stupéfiants en teste ici depuis quelques semaines seulement. Chaque voiture est systématiquement arrêtée et son conducteur contrôlé.
Voilà, vous faites les joues un petit peu aussi. Là, on attend 15 secondes, le temps que les produits à l'intérieur réagissent, et on laisse 6 à 10 minutes.
Aucune trace de drogue ne sera décelée, et concernant l'alcool, le jeune homme sera juste en dessous du taux maximum autorisé. Pour lui, la soirée se termine bien. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Le major Jean-Claude vient d'être appelé sur l'autre point de contrôle mis en place cette nuit-là. Ses collègues ont arrêté un jeune homme en possession d'ecstasy.
Sur un mec qui fait une bombe dans un portefeuille, il a chopé une quarantaine de cachets d'extra.
Un dérivé d'amphétamine aux effets hallucinogènes puissants. Alors les policiers font intervenir leur chien pour contrôler le coffre de la voiture.
Qui avait les extras sur lui
cette nuit? Ouais, c'est marrant là. Ouais.
Non seulement le conducteur est en possession de drogue, mais en plus il en a consommé.
Il a pris des stupéfiants cette nuit, oui.
Nous avons un trait accaparé sur la deuxième colonne. Oui. Nous avons les trois traits positifs, comme quoi le test fonctionne bien. Et on a un trait qui se déclenche au niveau des amphétamines.
Vu les premiers éléments de l'enquête, ce jeune homme de 23 ans est plutôt mal parti.
On ramène tout de suite le fait. Ça va aggraver sa sanction de détention, même si effectivement elle est importante, puisqu'il y a une quantité assez importante. Maintenant, le fait en plus d'avoir conduit et avoir consommé, ça va aggraver ces petits soucis là au niveau de la justice.
Il est conduit au commissariat pour un deuxième test, afin de connaître la quantité exacte de stupéfiants qu'il a avalé cette nuit. Mais pour Jean-Claude, le plus grave, c'est le nombre de cachets d'extasie en sa possession.
Il y a pour plusieurs milliers d'euros ce que transporte la personne. Bon, à lui, maintenant, l'enquête va déterminer à quoi étaient destinés les produits qu'il détenait. Ça va être difficile de dire que c'est pour une consommation personnelle, en tout cas.
Il est 8h30. Mis en garde à vue, le jeune dealer présumé se soumet à ce tout nouveau test salivaire qui évite une prise de sang.
Vous placez ça sous la langue. Tac, impeccable.
Malgré la drogue retrouvée sur lui, il nie toujours être un revendeur. Mais la brigade des stupes va bientôt aller perquisitionner son domicile. Dans un bureau voisin, Michael, le chef d'enquête, est quant à lui en train d'effectuer une opération un peu spéciale. Il liste les scellés de tous les stupéfiants récupérés par ses hommes lors des dernières affaires.
Alors donc le 303.
Ok.
Et il y en a beaucoup. Régulièrement, ces stocks de drogue sont donc détruits. Mais il y a des conditions.
Il faut déjà demander l'autorisation à la personne qui était détenteur de ce produit s'il nous autorise à procéder à la destruction de son produit stupéfiant. Et dans un second temps, il faut que le parquet nous autorise la destruction du produit.
WA pour celle-ci et Turbo.
Ok.
Le procureur a donné son aval. C'est Christophe qui se charge de la précieuse cargaison. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à le suivre durant cette mission ultra sensible. Elle va se dérouler à l'incinérateur de Nantes.
Même le long du bâtiment gris, là.
C'est là que disparaissent tous les déchets de la ville, domestiques mais aussi hospitaliers.
Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste... Et encore là, il y a la caisse.
On va l'emmener en direct. Vous avez la lettre du tribunal ?
Alors, on a la réquisition de destruction. Hop.
L'opération est particulièrement contrôlée. Les policiers surveillent la drogue jusqu'à l'intérieur de l'usine. Elle y sera ensuite jetée dans de gros containers en acier, qui contiennent aussi souvent des médicaments. À partir de là, aucune intervention humaine possible. Policiers et techniciens s'assurent de la destruction des produits stupéfiants par écran interposé.
Donc en gros, ça va se vider ici. En 20 minutes, c'est brûlé, quoi.
Tous les mois, des dizaines de kilos de drogue saisies à Nantes disparaissent ainsi en fumée. Dans un quartier tranquille du centre-ville, un autre groupe de la brigade des stupes s'apprête à perquisitionner chez le dealer d'ecstasy. Le studio du jeune homme est passé au peigne fin. Celui-ci collabore sans rechigner, livrant lui-même ses dernières doses de drogue.
C'est que ça ?
Ouais.
Ça, ça te sert à quoi ?
Ça, c'est pour faire les...
Pour faire les capuches ?
Les capuches, c'est ça.
Bon, ouais.
Les capuches, c'est ce qui permet d'envelopper les cachets d'ecstasy pour la vente. Et il y a une enveloppe avec une belle somme d'argent liquide.
50 ? Ouais.
150, 160, 180.
Au total, près de 1000 euros. Grâce à la bonne volonté du dealer, la fouille n'a pas duré longtemps. Le suspect va devoir maintenant s'expliquer au commissariat devant les policiers des stupes, Olivier et Christophe.
Tous les produits, on est d'accord, tu les achètes en même temps.
Ouais. Pour la modique somme de
500. C'est cher quand même.
Le prix des produits est élevé, mais les inspecteurs vont faire une constatation surprenante en analysant leur qualité.
Il n'y a vraiment que dalle, hein. C'est le test qui a un coup dans la patte, mais pourtant...
En réalité, les cachets contiennent très peu d'ecstasy.
On te les a vendus comme des extras ? Je pense que tu t'es fait carotter.
Le dealer a payé très cher une drogue de mauvaise qualité. Ce qui prouve qu'il n'est pas très aguerri.
Ce qui était dans ton portefeuille, ça vient des ventes ?
pour la nuit.
Une partie.
Visiblement, le jeune homme cherche à minimiser l'ampleur de son trafic. Alors Olivier tente d'évaluer le nombre de sachets de drogue réellement vendus en comptant le nombre de trous faits dans le sac poubelle récupéré chez le dealer.
Ouais, 14, 15, 16, 17, 18, 18 et 20.
Un calcul difficile, et le jeune homme ne semble pas vouloir l'aider. Pour le faire craquer, l'enquêteur a un atout, l'enveloppe sur laquelle il faisait ses comptes.
400 euros, 700 euros, 250 euros, 950 euros. Nous, pour nous, quand on voit ça, c'est de la compta. Ben, la comptabilité. C'est-à-dire que je mets mon argent dedans pour la drogue, et au fur et à mesure, je décompte.
Acculé, le jeune homme ne peut plus nier qu'il vit de son commerce illicite. Et il finit par avouer.
La vente de stup m'aide
financièrement.
Olivier a atteint son objectif. Le jeune signe ses aveux.
Je me dis que c'est une passade qui se termine. Je donnerai et puis c'était marrant un moment et puis. On a joué, on a perdu, et puis il faut arrêter maintenant.
Quelques mois plus tard, le dealer sera convoqué au tribunal de Nantes pour être jugé. Il écopera d'un mois de prison avec sursis. Un pas de plus dans la lutte que mènent les policiers contre le trafic de drogue, qui, malgré leurs efforts, a encore augmenté de 20% en un an.